C'est-à-dire, vous voyez, pour le moment, on était dans l'image cinématographique, passons de l'autre côté, l'image de la pensée. Est-ce que l'image de la pensée a quelque chose à voir avec le phénomène de l'automatisme? Je dirais, elle n'a pas que quelque chose à voir, elle a deux choses à voir. Voilà, c'est mon quatrième point aujourd'hui. Ça va, vous suivez bien? Ce qui importe, c'est de suivre les enchaînements, hein, aussi. Pas de problème, vous suivez bien, vous me le direz la prochaine fois. Hein. Bon, quelle heure il est? On se donne un petit repos pour que vous fumiez votre cigarette nocive. Mais pas longtemps. Hein. Car ils s'enchaînent les uns les autres. Mon quatrième point, c'est que tout ça, c'est que c'est pas clair. Les rapports pensés automatisme. Alors on va s'occuper un peu de la pensée. C'est pas clair du tout. Pourquoi? Parce que ces rapports sont doubles. Qu'est-ce que c'est que l'automatisme par rapport à la pensée? Il n'y a pas de question hein, sur les trois autres points. Hein. Je fais toute ma besogne. Pas de question. C'est-à-dire, c'est très clair. Bon. Il y a un premier rapport qui concerne quoi? Ben, c'est dans la mesure où l'automatisme va désigner l'ensemble des mécanismes inconscients de la pensée, mécanismes organico-psychiques. Et supposons, tout ça c'est des hypothèses à remanier plus tard, on appellera automatisme l'ensemble de ces mécanismes inconscients organico-psychiques par rapport à la pensée. En d'autres termes, l'automatisme désignera ici une pure matière, une matière spéciale, une matière organico-psychique que la pensée consciente a pour tâche d'intégrer, d'organiser, de dominer, mais qui peut se révéler pour elle-même et prendre comme un revers la pensée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un tel ensemble, car qu'est-ce que nous y mettrons? Nous y mettrons, par exemple, le rêve, l'onirisme. Mais les rapports dits oniroïdes, il n'est même pas sûr que l'onirisme et les rapports oniroïdes fassent partie d'une même catégorie ou puissent être réunis dans une même catégorie. Et puis toutes sortes de troubles qui, lorsqu'ils se révèlent, manifestent des mécanismes de pensée qui ne sont plus contrôlés par la pensée, ni même contrôlables, du type fuite d'idées. Et bien autre chose. En d'autres termes, y a-t-il une catégorie capable de grouper tout ça? Les mécanismes inconscients de la pensée. Si varié soit-il. En 1899, un grand psychiatre, j'insiste, 1899, tout ça, c'est la période où naît le cinéma. Donc je ne confonds pas des choses qui soient très différentes dans l'histoire, très distante dans l'histoire. En 1899, le grand psychiatre Pierre Janet, J-A-N-T, écrit un livre fondamental, L'automatisme psychologique. Où il envisage ce qu'il appelle l'automatisme total, l'automatisme psychologique. L'automatisme total, à savoir catalepsie, somnambulisme, suggestion. Et, d'autre part, l'automatisme partiel, anesthésie et paralysie hystérique, idée fixe, hallucination, possession. Et il pense possible, vous voyez que n'y intervient pas le rêve, il pense possible de construire un concept consistant d'automatisme psychologique. Vers la même époque. Ah. Alors, vous avez un nouveau cours ici ?
Très gentil. Très gentil. Faut que j'aille là-bas.
Un très grand psychiatre du 19e, qui répondait au nom bien plus joli de Gaétan de Clérambault, C-L-R-A-M-B-A-U-L-T, je crois, c'est ça, hein. Clérambault forgeait la notion d'automatisme mental. Et l'automatisme mental de Clérambault était très différent de l'automatisme psychologique de Janet. Car précisément, loin de prendre le caractère psychologique comme ce qui faisait l'unité de cet automatisme, il affirmait une base organico-neurologique qu'il posait comme première. Et qui nourrissait la psychose hallucinatoire. Et qui provoquait une réaction, ou qui pouvait ne pas provoquer, on pouvait en rester là. C'est déjà pas mal. Mais qui provoquait ou pouvait provoquer une réaction psychique. Réaction, comme il disait dans son langage, de caractère. Bien plus, la réaction psychique de caractère pouvait précéder, c'est très compliqué que les Rambauds, hein, pouvait précéder la base organico-neurologique. Et y correspondait la psychose paranoïaque. Et puis il y avait bien d'autres choses. Et vous voyez, l'automatisme mental allait couvrir une base neurologique, organico-neurologique, et une réaction psychique, une réaction caractérielle à cette base. Bien. On aura à voir de près. C'est pour ça que parmi toutes nos directions de travail, j'indique et je souligne, l'œuvre psychiatrique de Clérambault a été rééditée assez récemment par les presses universitaires sous le titre « Œuvre psychiatrique ». L'automatisme psychologique de Janet, à mon avis, je suppose, ne se trouve qu'en occasion ou en bibliothèque. Voilà, mais pour certains que ça intéresse, cet aspect de la grande psychiatrie du 19e, je vous conseille la lecture de ces auteurs qui sont les plus grands parmi les grands. En même temps, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas s'en tenir à la psychiatrie. Si je viens de considérer du point de vue de la psychiatrie, ma question est juste. Et là, vraiment, je n'avance pas. C'est juste pour grouper une question. Peut-on considérer l'automatisme sous sa forme psychologique, Janet, ou sous sa forme mentale, Clérambault, comme groupant tout un ensemble de mécanismes inconscients de la pensée? Il faut que je continue, car après tout, d'un tout autre côté, là, je n'essaie pas de faire de mélange, s'exercent dans la littérature deux choses qui paraîtront avoir une grande nouveauté. D'une part, les surréalistes développent une écriture qu'ils appelleront l'écriture automatique. Un pont sera établi par Breton et par Éluard et par Dali, puisque je ne peux pas parler de modèle, mais ils considéreront que l'écriture automatique est en étroite liaison avec certains phénomènes dont la psychiatrie s'occupe, au point que des livres d'écriture automatique se présentent comme de véritables simulations de délire et de psychose chez Breton et Éluard, et que Salvador Dali prétend instaurer et inventer au meilleur moment de sa pensée, je crois que c'est les textes de Dali qui gardent une grande force, une méthode qui lui est propre et où il prétend aller plus loin que l'écriture automatique des surréalistes et qu'il intitule lui-même la méthode de paranoïa critique. Qu'est-ce que veut dire tout cela? Paranoïa critique, écriture automatique. C'est une écriture qui sans doute prétend suivre ou exprimer les mécanismes inconscients de la pensée. Mais ce serait une définition très insuffisante, car bizarrement, sans qu'on comprenne encore pourquoi, il y aura lieu d'aller voir tout ça cette année, très bizarrement, ils insistent sur « ne croyez pas que c'est une écriture sans contrôle ». Quel est le type de contrôle qui convient à l'expression des mécanismes inconscients de la pensée ? Pas pour le moment. Ça nous laisse dans le vide. Je dis juste, n'y voyez pas une écriture incontrôlée. Ils se réclament tous d'un contrôle, à commencer par Dali. Puisqu'il ne fait pas de la paranoïa, il fait de la paranoïa un usage critique. La paranoïa devient une méthode de critique du monde et de ses apparences. Bon. Dans une toute autre direction, surgissait dans la littérature quelque chose qui recevait le nom de monologue intérieur. Le monologue intérieur prétendait être l'expression littéraire de ce qu'on appelait le courant de conscience, ou plus précisément, du courant subconscient de la conscience. Certes, le monologue intérieur n'était pas la même chose que l'écriture automatique. Il y avait quand même une rivalité d'ambition, saisir des mécanismes inconscients ou subconscients de la pensée, tout en les soumettant à un contrôle littéraire. Et le monologue intérieur éclatait avec Joyce. D'une part dans Ulysse, et dans un progrès décisif dans Finnegan's Wake. On dit à propos du monologue intérieur de Joyce ce que Joyce en a dit lui-même, comme s'il ne fallait pas se méfier de ce que disent les auteurs. Non pas qu'ils mentent, mais ils aiment à plaisanter. On dit toujours, et c'est frappant comme on répète ça sans aller y voir sans doute, que le monologue intérieur, comme Joyce l'a lui-même reconnu, a eu un ancêtre, un obscur romancier français qui s'appelait Paul Dujardin, et qui fit un petit livre en monologue intérieur intitulé « Les lauriers sont coupés » et qui a été republié en livre de poche. Et Joyce fait hommage à Dujardin. Quand les grands auteurs, quand les auteurs de génie sont modestes, ils adorent tromper les gens en invoquant des ancêtres à qui ils font grand honneur. Mais il ne faut pas trop les croire sur parole. Si vous lisez « Les lauriers sont coupés », là aussi on aura à le voir. Ça, parce que c'est un truc qui me soucie. Tout, c'est repris tout le temps. Un monologue intérieur, c'est comme automatique. L'ancêtre de Joyce, vous verrez, à mon avis, ne croyez pas sur parole à mon tour, que l'usage que Dujardin fait d'un monologue intérieur n'a strictement rien à voir, à mon avis, avec l'usage que Joyce en fait déjà dans Ulysse, si bien qu'il n'y a aucune filiation, à mon avis, de Dujardin à Joyce. En revanche, à mon avis toujours comme ça, Joyce, en même temps qu'il fait honneur à Dujardin, cache ses véritables sources. Tout ça, c'est des taquineries. À savoir, ses véritables sources sont beaucoup plus philosophiques. Il savait énormément de philosophie. Et ses véritables sources viennent des fameuses conceptions de William James, le frère d'Henry James. Des fameuses conceptions de William James sur le courant de conscience et son expression. Donc il faudra voir tout ça. Voyez donc qu'on se trouve devant un ensemble assez riche pour le premier aspect de l'automatisme, si je définis l'automatisme comme l'ensemble des mécanismes inconscients de la pensée et le problème de leur expression. On a des éléments psychiatriques, même deux éléments psychiatriques, deux éléments littéraires qui se recoupent par là, qui correspondent par là. Ça nous fait quatre éléments. La bombe, pour nous, c'est quoi ? C'est comment ça rencontre l'image cinématographique. Bien plus, quand la rencontre se fait avec l'image cinématographique nous dit ce que la littérature a tenté de faire, je suis apte à le faire mieux qu'elle. Voilà la grande rencontre. Image cinématographique. Image de la pensée au sens de l'automatisme, les mécanismes inconscients de la pensée. Et en effet, le cinéma d'inspiration surréaliste, premièrement, le cinéma d'inspiration surréaliste, se proposera de constituer une véritable écriture automatique qui aura l'avantage d'être visuel et sonore. Et de dépasser les possibilités de la littérature à cet égard. Et le premier film à surréaliste, ce sera déjà vrai dans Entr'acte, la première tentative en sens, Entr'acte, film de René Clair, mais le premier grand film à surréaliste, qui, comme le rappelle Artaud, et le scénario d'Artaud, filmé par Germaine Dulac, La coquille et le clergyman, Avant le chien andalou, le grand film d'Artaud. Artaud le présente sous le signe de l'écriture automatique, mais une écriture automatique devenue visuelle, sonore, autant que écrite, procédant avec des images. Une écriture procédant avec des images visuelles. Une écriture qui s'adresse à la vue, une écriture automatique s'adressant à la vue. Mais bien plus, le monologue intérieur. Et là, ça me paraît très important. Car c'est Eisenstein qui s'empare, qui dans un hommage très fort à Joyce, s'empare de l'idée du monologue intérieur et va lancer son grand thème qui, à mon avis, n'abandonnera jamais. Non seulement le cinéma procède par monologue intérieur, mais il réalise le monologue intérieur infiniment mieux que la littérature. Le véritable monologue intérieur, seul le cinéma peut l'effectuer. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire une chose très simple, à première vue. C'est que le monologue intérieur en littérature, à la Joyce, est encore dépendant de la barrière des langues. Et encore dépendant de la barrière des langues nationales. Remarquez, ce n'est vrai qu'en partie. Or, il faudrait qu'il excède, qu'il franchisse la barrière des langues nationales. Mais la littérature le peut-elle ? Dans Ulysse, non. Dans le grand monologue intérieur de Bloom, non. Mais dans Phineas Wake, commence à apparaître. Les mots qui n'ont plus aucune apparence, aucune appartenance à une langue nationale. Les mots qui font appel à plusieurs langues, pour ne pas parler des onomatopées infinies. Et Phineas Wake représente déjà une espèce de tentative étonnante, stupéfiante, pour que la littérature dépasse la barrière de telle ou telle langue nationale. Bien. N'empêche que c'est limité. C'est-à-dire, c'est limité par la forme des choses. Eisenstein peut dire que le monologue intérieur cinématographique n'est plus subordonné à aucune barrière des langues nationales en tant que cinéma vrai. Simplement, il marque une évolution. Je dirais avant 35 et à partir de 35. On verra que la théorie du monologue intérieur, pour moi, de Eisenstein, elle est fondamentale. Elle est fondamentale autant pour le cinéma que pour la philosophie. Dans une première période avant 1935, ça me paraît très curieux que Eisenstein, vous trouverez tous les textes à cet égard dans le film « Sa forme, son sens », édition traduction française dans l'édition Bourgois. Avant 35, Eisenstein considère que le monologue intérieur est encore l'expression cinématographique de la pensée d'un personnage. L'expression de la pensée subconsciente d'un personnage et des mécanismes subconscients de cette pensée. Il prend comme exemple un projet d'adaptation. Il avait voulu adapter un roman américain de Dreiser. Une américaine tragédie, une tragédie américaine. Et il dit, vous voyez, les tentatives de monologue intérieur de Dreiser, comparez-les avec mon projet. Vous verrez que moi, je vais beaucoup plus loin, forcément, puisque je peux à l'état libre faire. Les enchaînements d'idées préconscientes, subconscientes, mêlées aux sensations, aux souvenirs, aux projets, etc., du personnage, et constituer une espèce de courant de conscience du personnage. Je dirais que là, le monologue intérieur a déjà franchi la barrière des langues, mais reste indépendant d'un cinéma subjectif. Ce qui se passe dans la tête du personnage. En 1935, qu'est-ce qui se passe ? Je le précise, puisque c'est tout ça, on construit. Aujourd'hui, nous construisons notre année. Je le précise parce que je crois que en 1935, Eisenstein est moitié forcé, moitié prêt à improviser un discours. C'est le fameux discours de 1935. Pourquoi fameux ? Parce que sans trop s'y attendre, mais devait avoir des pressentiments, Eisenstein, dans un colloque des cinéastes soviétiques, se trouve pour la première fois officiellement en proie à une vaste critique des staliniens. Et que, dans ce discours à peu près à moitié improvisé, sûrement, il montre à la fois, je ne sais pas comment dire, un courage et une prudence. Qui font mon admiration. La manière dont ils s'en tirent, on lui fait... C'est pas que les autres sont pas du tout des imbéciles. Ils lui font des objections fondamentales, mais qui ont l'air d'être proprement cinématographiques. C'est un texte passionnant. Qui ont l'air d'être uniquement cinématographiques. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. Tout le monde comprend de quoi il s'agit, à savoir... l'œil de Staline est sur toi et si tu continues à faire ce que tu fais, hein, tu vas voir ce que tu vas voir. La réponse de Eisenstein est prodigieuse. Elle est très très prudente. Tu dis, mais vous avez raison, vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Mais ça n'empêche pas qu'on peut dire que c'est ce que j'ai fait qui vous a permis aujourd'hui d'avoir raison, tout ça. Enfin, il est malin comme tout. Ce texte, il faudra le voir de très près. Mais ce qui m'intéresse pour le moment uniquement dans le discours de 1935, c'est que le monologue intérieur est érigé à une nouvelle puissance. Il ne sert plus et ne désigne plus la possibilité du cinéma de donner une expression à ce qui se passe dans la tête du personnage. Il devient adéquat au film tout entier. C'est le film entier qui se présente comme monologue intérieur, dès lors non plus monologue intérieur. Qui se passerait dans la tête du personnage, mais monologue intérieur qui est aussi bien celui de l'auteur que du spectateur, et de l'un et de l'autre à la fois, c'est-à-dire qui est le film en lui-même. Le monologue intérieur est le film. C'est le tout du film, au point qu'il nous dit, et là ça doit nous intéresser dans notre problème de la pensée, ce qu'il appelle, on ne sait pas encore ce qu'il appelle comme cela, le cinéma intellectuel a pour prolongement naturel le monologue intérieur. Le monologue intérieur est le corella du cinéma intellectuel. Si bien que j'en reviens, puisque c'est un point qu'on aura à considérer cette année. Lorsque la sémiologie d'inspiration linguistique a dénoncé chez Eisenstein une conception hâtive du rapport entre le cinéma et la langue ou le langage. Je me demande si, à la base, ils n'ont pas singulièrement méconnu ce qu'Eisenstein appelait monologue intérieur. Car ce qui me paraît évident, si peu que j'en dise pour le moment, puisque ce sera pour l'avenir, cet examen des rapports cinéma-langage, car ce qui me paraît évident, c'est que le monologue intérieur pour Eisenstein n'est ni une langue, ni un langage. Si bien que l'alternative future de la sémiologie linguistique, langue ou langage, n'a pas lieu de se poser. Ils ont essayé de prendre Eisenstein dans leur pince à eux, langue ou langage, pince qu'ils empruntaient à Saussure. Mais ce n'est pas le problème d'Eisenstein. Pas du tout. Pour Eisenstein, je dirais, quoique ça reste encore incompréhensible, mais ça fait rien, ça deviendra peut-être clair plus tard. Le monologue intérieur, pour Eisenstein, n'a jamais été ni une langue ni un langage. C'est une matière noétique. Noétique, ça veut dire qui concerne la pensée. Est une matière noétique. Corrélative de la langue-langage et antérieure à la distinction de la langue et du langage. Si bien que loin d'avoir à reprocher à Eisenstein de se faire une conception naïve de ce problème, c'est presque à la sémiologie d'origine d'inspiration linguistique qu'il faudrait se reprocher. De se faire une conception naïve et trop appliquée, une espèce d'application des données linguistiques au niveau d'un problème qui n'était pas ça du tout. La question d'Eisenstein, c'est conformément à certains linguistes qui n'ont rien à voir avec Saussure, la nécessité de découvrir une matière propre, une matière spécifique qui n'est encore ni langue ni langage, qui préexiste à langue-langage, qui préexiste en droit, pas en fait, qui préexiste en droit, à langue-langage, à la distinction même de la langue et du langage, et qui constitue comme la matière première. Et le monologue intérieur, c'est cette matière première. Et c'est à ce niveau d'une matière première préexistant à la distinction de la langue et du langage, donc préexistant aux deux, qu'il faut poser le problème des rapports cinéma, langue ou langage. Et j'en veux pour preuve que, après tout, un des maîtres de la linguistique, Jacobson, a au moins le mérite, dans l'interview qu'il a donnée sur le cinéma, de dire une chose qui, moi, m'a toujours... Il le dit qu'en une phrase. Il dit juste, c'est rudement intéressant. Il ne dit pas du tout, Eisenstein, il est naïf. Lui, il ne le dit pas. Il dit, s'il y a une chose qui me paraît intéressante, c'est la conception que Eisenstein se fait du monologue intérieur quand il se réclame de Joyce. Et là, il le dit en tant que linguiste. Qu'est-ce que c'est que cette matière qui n'est ni langue ni langage et qui est pourtant comme le présupposé de la langue et du langage? Je dirais, cette matière, pour le moment, on ne peut pas en dire plus, c'est le monologue intérieur. Voilà, peu importe que ce soit un peu obscur. Voilà. Mais alors, je regroupe juste. Il y a un automatisme, voilà, Il y a un automatisme de la pensée qui peut se définir de manière très vague par l'ensemble des mécanismes inconscients et subconscients. C'est un fait que l'image cinématographique, parce qu'elle est automatique, vous voyez, ma réponse est très simple. Je suis en train de justifier mon invocation, l'automatisme de l'image, c'est parce qu'elle est automatique que l'image cinématographique, dès le début, s'est sentie une véritable vocation pour prendre à son compte les mécanismes inconscients de la pensée qu'on groupait sous le nom d'automatisme psychologique ou mental. A toute une longue descendance à des plus grands, avec le changement de régime du cinéma, si je saute dans le plus moderne, par exemple, Wells me paraît un des génies d'un cinéma hallucinatoire. D'une autre manière, René est un génie du cinéma hallucinatoire. Donc ça finira pas avec les pionniers, tout ça. Ça changera, il y aura des mutations. Mais le cinéma, dès le début, s'est reconnu une vocation pour exprimer les mécanismes inconscients de la pensée et par là, l'automatisme mental ou psychologique. Parce que son image était automatique, il était voué à l'automatisme psychologique ou mental. J'annonce vite ce par quoi nous commencerons la prochaine fois. C'est que il y a un tout autre pôle. Je m'intéresse toujours au rapport automatisme-pensée. Il y a un tout autre pôle de l'automatisme par rapport à la pensée. L'automatisme ne désigne plus cette fois-ci l'ensemble des mécanismes inconscients ou subconscients de la pensée, organico-psychiques. Il désigne quoi ? Cette fois-ci, il désigne l'ordre supérieur d'une logique pure l'ordre formel des pensées. Qui déborde dans la pensée la conscience elle-même. Ce n'est plus l'inconscient ou le subconscient, c'est le supraconscient. Ah bon ? Eh oui ! Et là, la philosophie se retrouvait dans son image la plus pure de la pensée. Dès le XVIIe siècle, siècle royal, apparaissait l'expression la plus insolite. L'automate spirituel. Automaton spirituale. Hein, en un langage barbare, puisqu'il réunit un mot grec et un mot latin. L'automaton spirituale. Cette splendide chose, ce splendide concept d'automate spirituel apparaît chez Spinoza. Pensait-il à quelque chose, vu sa tradition juive, comme le golem, un golem dans la pensée, le grand golem. Bon. Il ne s'agit plus des mécanismes inconscients de la pensée du type rêve-rêverie. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de l'ordre formel. Écoutez-moi bien.
Peu importe aussi que vous ne compreniez pas bien encore. Ça viendra, il ne faut pas être pressé. Il faut d'abord entendre et puis comprendre bien après. Hein. Il se peut que vous compreniez dans 3 mois. Hein. C'est L'ordre formel, l'automate spirituel, c'est l'ordre formel par lequel les pensées se déduisent les unes des autres indépendamment de leur objet et indépendamment de toute référence à leur objet. Ah, vous me direz, qu'est-ce que c'est que ça? Ça existe une chose comme ça? Ben, vous savez bien que ça existe, même si vous ne pratiquez pas ou si vous ne savez pas comment ça se pratique. La pensée démonstrative n'a jamais été autre chose, je veux dire la pensée théorématique. L'enchaînement des théorèmes n'a jamais été autre chose que l'ordre formel par lequel les pensées se déduisent les unes des autres, indépendamment de toute référence à leur objet. Je veux dire, vous déduisez quelque chose de l'idée de triangle, indépendamment de savoir s'il y a des triangles. Qui est des triangles ou qui n'est pas de triangles, vous vous en tapez. La démonstration théorématique enchaîne les pensées du point de vue formel pur. Vous me direz, il y a encore des figures, il y a encore une figure de triangle, tout ça. Aussi, on peut aller plus loin. Et la logique moderne perfectionnera sous le nom, d'une part, de logistique, et puis, sous le nom, et c'est justifié car c'est différent de la logistique, sous le nom d'axiomatique. Et l'axiomatique sera bien un enchaînement de pensées, enchaînement formel, indépendamment de leur contenu. La forme la plus haute de la pensée, en tant qu'elle enchaîne idée avec idée, indépendamment de toute référence à l'objet, c'est cela, l'automate spirituel. L'automate spirituel fut réalisé dans l'ordre démonstratif des théorèmes, puis dans l'ordre de la déduction de la logistique, puis dans l'ordre de l'axiomatique et du développement de l'axiomatique. Spinoza, nous le verrons, il faudra quand même bien voir le texte, qui est très très curieux. Le texte de Spinoza, où il lance l'automate spirituel, comme donc, étant une pensée supraconsciente. C'est la conscience qui dépend de la manière dont la pensée enchaîne les gens. Il y a un renversement pensée-conscience. C'est plus la pensée qui dépend de la conscience, c'est la conscience qui découle de la pensée. La conscience sera un résultat de l'enchaînement formel des idées les unes par les autres par la pensée, indépendamment de toute référence à l'objet. Ce grand renversement spinoziste anime l'automate spirituel. Une aussi bonne formule que l'automate spirituel ne pouvait pas surgir dans la philosophie sans que Leibniz s'en empare immédiatement. Et pour une fois, Leibniz, qui n'empruntait pas grand-chose à Spinoza, lui emprunte immédiatement l'idée de l'automate spirituel, pour la simple raison que Leibniz, créateur d'une véritable logistique, et poussant jusqu'au bout de son époque l'idée d'un formalisme de la pensée qui enchaîne ses idées, pour en faire justement ce qu'il appelait une caractéristique universelle. Dans cette nouvelle science, qui donnera la logistique trois siècles après, dans cette nouvelle science leibnizienne de la caractéristique universelle, toute cette science est mise sous le signe de l'automate mental ou de l'automate spirituel. Au XXe siècle, un livre qui reste un livre insolite, il faudra voir. Un livre qui paraîtra extraordinairement nouveau, mais qui, à mon avis, ne fait que pousser jusqu'au bout cet idéal classique de l'automate spirituel. C'est le livre de Valéry, Monsieur Test. Et Monsieur Test, c'est l'automate spirituel ou l'automate mental. Livre qui a eu un grand retentissement au début du XXe siècle, je ne sais plus de quand il est, et qui est un livre bien connu de Paul Valéry, qui présente l'automate spirituel sous le nom exprès de Monsieur Test, car Monsieur Test, c'est quoi ? Test, c'est, comme le dit Valéry, c'est la preuve. Et le mécanisme de la preuve, c'est quoi ? C'est l'enchaînement formel des idées qui découlent les unes des autres. Monsieur Test est celui, dit Valéry, qui affirme et qui pose et qui donne l'autonomie de la pensée et qui porte une pensée qui se nourrit de sa propre substance. Loin d'être un délire mathématique de Valéry, qui rêvait toujours de mathématiques, il me semble que M. Test est l'achèvement de la pensée classique du XVIIe siècle. Bon, vous me direz, voilà donc un second sens. Vous voyez que j'ai deux sens de l'automatisme dans ses rapports avec la pensée. L'automatisme, c'est-à-dire les mécanismes inconscients ou subconscient de la pensée, et d'autre part, l'ordre formel des pensées qui s'enchaînent les unes avec les autres indépendamment de la conscience. Une infraconscience et une supraconscience. Tout à l'heure, je disais, y a-t-il rencontre entre le cinéma et le premier sens de l'automatisme psychique ou mental ? Et notre réponse immédiate, c'était oui. Oui. En vertu du caractère automatique de l'image cinématographique. Ma seconde question va avoir exactement la même réponse, seulement ça ne va pas être les mêmes variables. Je dirais oui, il y a une rencontre fondamentale entre l'image cinématographique et cette nouvelle image de la pensée, celle de l'automate spirituel supérieur. Combien maintenant l'objection de Georges Duhamel nous paraît pâle et maigre et faible. C'est justement parce que le cinéma est capable d'instaurer, de faire vivre l'automate spirituel, qu'il est en rapport fondamental avec la pensée. Et pourquoi est-ce que l'image cinématographique rencontre ce deuxième aspect de l'automatisme, non plus l'automatisme psychologique, mais l'automatisme mental ou spirituel, l'automatisme supérieur, pour la même raison que tout à l'heure, parce qu'il a une image automatique. Alors, il faut croire quand même qu'il a deux aspects de l'image automatique. Sous le deuxième aspect, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que c'est que ? Est-ce qu'on peut parler d'un cinéma théorématique ? Est-ce que c'est essentiel au cinéma ou est-ce que c'est quelque monstruosité de cinéma ? Oui, on peut parler d'un cinéma théorématique. Oui, oui, oui. Oui. Je ne suis pas sûr que Pasolini, quand il intitule un film théorème, le fasse comme ça, et qui n'ait pas bien réfléchi à son titre. Pasolini a au moins produit deux chefs-d'œuvre de cinéma théorématique. L'un intitulé Théorème, l'autre intitulé Salon. Et ça est long. Bon, je ne suis pas sûr que le cinéma tout entier de Bresson ne soit pas un cinéma de l'automate spirituel. Bon, tout ça, c'est à voir. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, et la prochaine fois on en est là, on fera une petite revue s'il y a des choses à préciser dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Je voudrais que vous vous rappeliez, parce qu'on a procédé très, très en ordre. Hein. Si vous n'avez pas l'ordre, ça ne fait rien que vous ne compreniez pas tel moment ou tel moment. Il faut que vous compreniez l'ordre de notre démarche. et comment, à chaque niveau, je vous ai déjà proposé une courte bibliographie. Alors, on reprendra ça, ce second automatisme dans son rapport avec le cycle.